Salut, c'est Juliana Léveillé-Trudel. Je vous présente Enfabulation, un balado tiré du spectacle du même nom présenté à Montréal depuis 2017. Notre concept est simple. Chaque invité raconte une histoire vraie qui lui est arrivée, sans notes, ni costumes, ni accessoires. Aujourd'hui, je vous invite à écouter « L'homme qui a vu l'ours », un récit de l'auteur et comédien Maxime Plamondon. Bonne écoute!
Moi, j'ai grandi dans l'arrière-pays au nord de la ville de Québec. Puis, dans le bois, en arrière de chez nous, dans la forêt de mon grand-père, il y a des ours. Puis on en voit souvent rôder près de la lisière vers la fin de l'été, que ce soit un mâle solitaire ou une femelle dodue avec ses petits. Il est très bien gros sur les mûres, les framboises, les bleuets sauvages qui poussent le long du ruisseau. Puis je pense que c'est cette proximité discrète qui m'amène à développer une fascination absolue pour les plantigrades quand j'ai 6 ou 7 ans à peu près. Je me renseigne de toutes les manières possibles et imaginables sur les grizzlies, les kodiaks, les ours polaires, les ours à lunettes, les ours lipus. Bon, en arrière de chez nous, c'est des ours noirs, mais ben, tu prends ce qui passe puis tu chioles pas trop. Fait que j'exige de ma mère, c'est un enfant capricieux quand même, j'exige d'elle qu'elle m'achète des livres à leur sujet, puis de mon père qui m'en conte des histoires. Mon père, c'est un super conteur. Non, demander à ton grand-père Élie, je suis sûr, ça va lui faire plaisir. Mon grand-père Élie, mon grand-père paternel, vit avec ma grand-mère dans une grande maison, juste en billet de chez nous. Grande maison au sommet d'une colline qui domine le champ de mon grand-père, puis sa forêt, puis sa montagne. Je pense que le pays appartient au complet. C'est le point de vue idéal pour qu'un homme observe tout ce qui a passé sa vie à édifier, mais aussi pour observer les incursions de la faune sauvage. Puis mon grand-père, calé dans le fin fond de sa berçante, convoque ses souvenirs avec une voix, ou sa voix plutôt, de feu de foyer.
C'était le temps des récoltes de chemin, puis c'était une coupe d'hommes là, qui est allé en haut. On aura du bois après faucher, justement, ben, midi, on t'a tard descendu pour dîner, hein, justement, ben, sauf un qui est resté là pour finir de remplir sa bourguine, bardasse, puis travail, ben, maintenant, il entend que ça brosse en arrière de lui, ça fait que, se revire, ben, et se ramasse face à face avec un ours qui était sorti du bois. T'as jouqué ses deux pattes en arrière. Ben, il grondait justement. Fait que, cet homme-là, c'était pas une filouette. Il savait bien qu'il avait pas le temps de se sauver. Ben, il était trop loin pour appeler à l'aide. Fait que, ben, il a fait ni une ni deux. Il a ramassé sa faux, comprends-tu, puis d'un coup sec, il s'est tranché une main. Et il y avait du sang partout, ben, et il criait au meurtre, puis il gigotait de tous les bords, ça va. Lourd, et quand il a vu ça, il a reviré de bord, puis il a sacré son gars. Grand-papa. Une histoire comme celle-là, en elle-même, aurait dû suffire à me guérir de mon obsession pour les ours. Mais en fait, c'est plutôt le contraire qui s'est passé. Non, évidemment, l'impulsion de cet homme-là était absolument choquante, mais j'étais trop petit encore pour comprendre toutes les subtilités liées au désespoir puis à l'instinct de survie qui se manifeste. Non, non, moi, du haut de mes 7 ans, j'étais comme, si je me tiens assez loin puis que je cours vite, là, en plus, j'avais des nouvelles espadrilles qui faisaient de la lumière, ben, j'aurais jamais besoin de me trancher un membre pour survivre à une confrontation comme celle-là. Ah, non, non. Il n'y a pas de danger. Je peux continuer à rêver aux ours en paix. Bon.
Néanmoins, à moins d'un hasard assez substantiel de la vie, les chances d'une rencontre comme celle-là sont plutôt minces. Ça fait que si je veux en voir un de proche, un ours, il va falloir forcer le destin un petit peu. J'ai lu des affaires sur les ours. J'ai lu qu'ils sont bien peureux, puis qu'ils n'aiment pas trop les humains, mais qu'ils sont curieux, puis qu'ils sont bien gourmands. Ça fait que je me suis mis en tête cet été-là d'en piéger un ours. Hein? J'ai commencé à gosser un piège à partir d'un vieux corps à vidange en tôle noire, rongé par la rouille. Mon père, il brûlait de la fardoche là-dedans, puis il mettait des restants de je sais pas trop quoi. Ça sentait le diable, en tout cas, là-dedans. Il mettait des vidanges, je pense. Puis il fermait ça avec un gros couvert en bois qu'il avait recouvert avec du vieux rubber usé. Moi, je commence à me gosser un piège avec ça. Puis à un moment donné, mon père, je pense qu'il était tanné de m'entendre zigonner dans ses outils parce qu'il est venu m'aider pour qu'on aboutisse avec cette histoire-là, puis que je passe à une autre lubie, parce que j'en ai eu plusieurs des lubies quand j'étais plus jeune. On roule le dit piège jusqu'au bout du sentier qui part du fond du terrain chez nous jusqu'à la terre de mon grand-père. Mon père, il est smart. Il bloque le couvercle en position ouverte avec une branche d'épinette. Ouais, il manque quelque chose, hein, mon petit homme. Ouais, attends une minute, là, je reviens. Il remonte vers la maison. J'attends à peu près 5, 6, 7 minutes. Il redescend avec le sac de pain avec lequel il a fait mes toasts ce matin-là, puis le pot de miel liquide pour les croquettes de poulet. Il sort deux tranches, met du miel là-dessus, et de beurre, ça coule à terre. Il sac les deux tranches dans le fond du baril. Si t'es patient, là, peut-être bien qu'on va en attraper un. Objectivement, c'est les mouches noires qu'on va attraper. Hein? Au mieux, un raton laveur. Mon père le sait très bien. Comme il sait aussi que c'est l'espoir qui fait vivre, puis que si les deux tranches extra-moelleuses disparaissent sous l'action d'un rongeur quelconque, ben peut-être bien que je vais me tranquilliser une heure, puis que je vais passer un autre appel. Mais je suis un enfant tenace. Ça n'a pas vraiment changé, d'ailleurs, aujourd'hui. Mais non, moi, c'est pas vrai que je vais me contenter seulement des traces du passage d'un ours. C'est pas les restants de son lunch qui m'intéresse, c'est de le voir pour vrai sous mes yeux. Je veux qu'il existe. Quitte à l'inventer moi-même. Ce qui nous mène à la fin de cet été-là. Un samedi matin, je suis après jouer avec ma petite sœur dans le carré de sable, au fond du terrain qui est situé juste entre le sentier puis le vieux cabanon en tôle de mon père dans lequel il y a ses outils aratoires et tout ça. Pis on joue, pis on fait des pâtés, pis on fait des châteaux, puis des routes. Pis... À un moment donné, il me semble que j'entends brasser dans la fardoche à côté. Puis là, je prête l'oreille, puis oh oui, ça brasse. Ah, puis il me semble qu'une seconde avant, j'ai vu quelque chose bouger à travers les feuilles, là. Un genre de grosse masse sombre, assez massive. Ça n'a pas grogné, mais c'est tout comme. Hein? Ça a sûrement grogné, mais le raclement de mon camion en plastique dans le sable l'a caché. J'ai beau avoir 7 ans, mais je suis pas niaiseux. Une tache sombre, incertaine, en plein milieu du bois, ça grogne tout le temps, même si tu l'entends pas directement. Hein? Ça peut pas être autre chose qu'un ours. Évidemment, il y a pas moyen d'en être convaincu absolument, mais là, plus j'essaye de distinguer le réel de ma fixation, moins je suis en train de comprendre ce qui est en train de se passer. C'est moi qui veux tellement voir un ours que je suis en train de l'halluciner, ou y a-tu quelque chose qui s'apprête à nous sauter dessus, moi puis ma sœur, puis à nous manger, à laisser un tas d'os puis de viande à terre. Il peut pas avoir deux vérités. Faut choisir. À ce compte-là, je prendrai pas de chance. Puis j'ai bien fait, parce que je suis encore là, ici, à soir, pour vous conter cette histoire-là. Non, je ramasse ma petite sœur par le bras. Panique pas, mais je pense qu'il y a un ours à côté. Non, non, crie pas! Pas faire de bruit. Cours pas, mais marche tranquillement, de reculons. Faut pas y montrer notre dos. Évidemment, je suis pas vraiment certain qu'il y a matière à s'inquiéter à ce moment-là, mais ça m'empêche pas de ressentir... un frisson absolu dans mon dos, la crainte, la panique, le thrill absolu de ce qui se séproie, puis qu'on retient de l'époque où on était des animaux encore. On monte la petite côte, puis passé le bosquet de pins qui nous camouflait du bas du terrain, j'ordonne à ma sœur de se ruer vers la maison. On monte 4 à 4 les deux étages du balcon. Je claque la porte patio en arrière de nous autres, puis avec la face la plus effrayée que je suis capable de prendre, je raconte à mes parents qu'il y a une grosse affaire noire qui s'est approchée du carré de sable puis qui nous a grogné après. Que je suis pas sûr, mais que je pense que c'est un ours. À ma grande surprise, c'est ma mère qui est pas trop certaine de ce que je suis en train de raconter là. Puis c'est mon père qui prend mon récit au sérieux. Ouais, ton grand-père Élie a vu une mère avec ses ours dans le champ cette semaine. Là, il ramasse le téléphone, puis il compose un numéro. Un long numéro. Le genre de numéro que les adultes composent quand c'est bien sérieux. Puis là, je commence à regretter d'avoir inventé une peut-être vraie histoire. Hein, parce que les adultes n'aiment pas ça quand les affaires sont incertaines puis vaporeuses. Au bout de 5, 6, 7 minutes, c'était peut-être bien 15, dans ma tête à ce moment-là, il n'y a plus grand-chose qui faisait de sens. Mon père raccroche. Ouais, il y a un gars de la faune qui s'en vient, là. Le cœur me tombe dans les talons. J'ai pas vraiment compté un mensonge, mais t'essaieras de faire comprendre ces nuances-là à un policier, toi. Fait que mes parents nous envoient jouer dans le sous-sol. OK, mon petit Max, là, faut que tu penses. J'ai encore un peu de temps pour rattraper ma niaiserie. Ça fait que je sors discrètement par la porte de l'atelier à mon père, en bas. Je longe la maison jusqu'au ruisseau, puis je descends une petite pente, là où plus personne peut me voir. Puis là, je chemine en direction du fond du terrain. Je m'enfonce dans Fardoche, comme dans ma menterie, avec l'idée dans la tête d'aller faire du ravage pour crédibiliser mon affaire. Puis ça tombe-tu bien, j'arrive en arrière du cabanon, puis il y a une grosse plaque d'herbage, tout écrasée, tout cassée, tout est foiré, ça fait que je pars de là, puis à mon tour, je me trace un chemin en suivant le ruisseau jusqu'à une éclaircie, en fait, qui donne sur le champ de mon grand-père. Puis j'écrase, puis j'arrache, puis je casse, puis je fais attention de pas mettre un pied sur une plaque de terre nue parce que un ours avec des espadrilles à velcro, c'est pas bien crédible. Quand je m'assure que ma job est bien faite, je me dis que peut-être bien que ça va être suffisant pour semer le doute dans l'esprit d'un gars de la faune qu'il y a une grosse affaire qui est partie du champ à mon grand-père puis qui est venue rôder autour du cabanon puis du carré de sable. Fait que tout aussi discrètement que je suis sorti, je rentre dans la maison. Ma petite sœur est encore en train de jouer au Barbie dans sa chambre. Elle s'est rendue compte de rien. Mes parents non plus, faut croire, parce qu'ils jasent en haut. Ils m'appellent pas. Après une interminable demi-heure, le gars de la faune arrive enfin dans son gros 4x4 avec les insignes du gouvernement à ses deux portes. Puis là, je commence à paniquer. Je pense que c'est ce jour-là que j'ai commencé à faire de l'anxiété, en fait, parce que va-tu me donner une amende? Ils peuvent-tu m'envoyer en prison? Mon père s'en va le rejoindre dans l'entrée. Moi, je suis comme, je vais te suivre. C'est moi qui ai vécu l'histoire. C'est moi qui vais la raconter. Non. Ma petite sœur puis moi, on est confinés à l'intérieur jusqu'à nouvel ordre. Ça fait qu'impuissant, incapable de montrer le fruit de mon travail d'imagination, je les regarde par la porte patio descendre vers le fond du terrain, observer autour du carré de sable, observer autour du cabanon, puis s'enfoncer dans le sentier. Puis là, je me dis que ça sera pas long que je vais manger une de ces volées. Puis là, tout d'un coup, je me trouve bien niaiseux. Avec mon baril piège, puis avec les tranches de pain, beurre et de miel à mon père. Il va bien rire, monsieur gars de la faune. 5 minutes passent. 10 minutes passent. 15 minutes passent. Oh, ils doivent être en train de fumer des cigarettes en imaginant toutes sortes de manières de me punir quand ils vont remonter. Puis là, tout d'un coup, clairement, moi, j'ai jamais entendu ça avant, mais je sais ce que c'est. 2 détonations qui partent. Dans le clair de ce matin-là, il n'y avait pas de doute possible. Le gars de la faune venait de tirer 2 coups de fusil avec son arme de service. Puis ça n'a pas été long que je les ai vus remonter assez vite depuis le sentier. Il y avait un pas beaucoup plus pressé que quand ils sont descendus. Le gars de la faune, il est retourné à son troc. Mon père, on l'a bien entendu rentrer par la porte de l'atelier, zigonner un peu après ses outils sur son établi. Il est remonté. Ouais, ben,
Il y avait bien un ours en arrière. Ouais. Ouais, c'est probablement la mère que le grand-père a vue là, cette semaine dans le champ avec ses petits. Là. Ah, et, il a tiré en l'air pour y faire peur, là, ça a créé son camp. En fouillant un peu autour, on s'est rendu compte qu'elle a fait son nez quand autour du cabanon. Là. Heureusement, ses petits n'étaient pas là à ce moment-là, parce que déjà, elle n'était pas bien contente de nous voir arriver là. Il est parti faire un call, là, et la protection de la faune, ils vont toutes les transférer ailleurs, je pense. Là. C'est comme ça qu'en l'espace de 3 heures ce matin-là, une histoire que j'étais persuadé que mes parents prendraient jamais au sérieux s'est transformée en mensonge hors de contrôle qui est lui-même devenu, sous l'action d'un pur hasard, une vérité. Je voulais tellement voir un ours que j'en ai inventé un. Mais cet ours fictif a coïncidé avec un ours réel, puis c'est probablement ce qui nous a sauvé la vie à ma petite sœur puis à moi ce matin-là. Une espèce de préscience. Puis moi, je savais rien de tout ça. Mais quand je suis ressorti pour masquer les traces de ce que je pensais être un mensonge, ben j'aurais bien pu me faire tuer. Évidemment, j'avais pas conscience de tout ça au moment où l'agent de la faune m'a félicité pour mes réflexes puis pour ma vigilance puis m'a offert un jeu de cartes explicatif sur les animaux de la forêt boréale. J'ai fermé ma gueule puis je me suis contenté de dire merci. Mais ça m'a trotté dans la tête pendant des années cette histoire-là puis quand je suis arrivé à l'adolescence, puis que j'ai commencé à écrire, puis que j'ai commencé à raconter des histoires, j'ai commencé à me rendre compte que si j'étais... j'étais fasciné par les ours quand j'étais plus jeune. Il n'y avait pas de doute là-dessus. Mais j'avais aussi un fort attrait pour l'idée de l'ours, pour sa mise en scène, pour ce moment précis, quand il y a le thrill de la réalité puis de la fiction qui se confondent jusqu'à devenir indiscernables. Puis c'est là que j'ai repensé à l'histoire que mon grand-père Élie m'avait racontée, hein, de cet homme qui s'est tranché à la main. Fait que je suis allé le voir, mon grand-père. C'est une des dernières fois. En fait, je pense que cette journée-là, c'est la dernière fois où j'ai pris le temps d'aller m'asseoir avec pour lui demander de m'expliquer des affaires. Puis j'aurais dû poursuivre, mais bon, la vie fait les choses de certaines manières. J'ai demandé, grand-papa, vous vous souvenez de cette histoire-là, le gars avec sa faux? C'est-tu vrai, ça?
Tu sais, nous autres, à la maison, notre père, il parlait pas. Il y a des affaires qu'on a apprises plus tard. On aurait aimé savoir avant. Fait que, ben moi, j'ai décidé de parler dans la vie. Puis tu feras pareil, toi et tout, si ça t'a le temps. Il n'y a pas eu besoin de dire plus que ça, mon grand-père, pour que je comprenne. Puis c'est de ce moment-là que j'ai choisi, en écrivant, encore aujourd'hui, que ce soit des histoires réelles comme ce soir, ou des fictions, comme ce que je vais faire sur du beau papier que je vais aller acheter chez Nota Bene demain matin, ben, j'ai décidé de toujours rendre hommage à ce moment où mon grand-père a accepté de se confier sans jamais sacrifier la part de fiction qu'il avait peut-être intégrée à son histoire. Mais au final, fiction, réalité, c'est jamais ça qui compte tant que la sincérité de la parole qui est partagée. Fait. Merci, grand-papa.
L'histoire que vous venez d'entendre a été écrite et interprétée par Maxime Plamondon. Elle a été enregistrée au Centre Phi le 9 décembre 2023 lors de la présentation de notre spectacle « Histoire de famille ». La prise de son a été effectuée par Simon Charon. Le montage et la musique originale sont de Christian Brundelré. Et ce balado est une création des Productions de Brousse.